Voilà. Chers amis, auditrices et auditeurs, bonjour. Bonjour Jean-Christophe Gruau.
Bonjour Benoît.
J'ai la joie donc d'inviter le responsable de la librairie Duquesne à Paris. Et vous êtes donc responsable depuis 2025.
Janvier 2025.
Voilà. Et vous allez vivre un anniversaire particulier, puisque nous allons fêter bientôt les 60 ans de la diffusion de la pensée française, qui a donc été créée par Jean Augy en 1966.
Exactement. C'était d'ailleurs le titre d'un ouvrage d'Antoine Compagnon, 1966, année mirifique. Alors j'en parlerai pas parce qu'il parle pas de la naissance de Chiré, donc si vous voulez, l'année n'a pas été si mirifique que ça, mais c'est vrai que ça fait 60 ans, et vous le savez aussi bien que moi, mais peut-être même mieux, puisque vous y avez travaillé, que Chiré défend, je dirais, les bonnes idées, hein, celles qui pourraient permettre de remettre la France dans les rails, et c'est vrai que aujourd'hui, dans le contexte présent, fêter 60 ans quand on vend des livres, c'est un exploit.
Voilà. Alors, avant que nous évoquions justement ces commémorations, j'ai la joie de recevoir donc, par téléphone Jean-Pierre Maugendre.
Jean-Pierre Maugendre. Bonjour, je suis là. Bonjour à tous. Bonjour Benoît.
Alors, Jean-Pierre Maugendre, vous allez vous rendre justement à ces journées chouannes, un peu commémoratives, pour présenter les ouvrages des éditions Contretemps.
Effectivement, donc j'ai prévu d'être aux 60 ans de Chiré, avec nos derniers ouvrages des éditions Contretemps, et puis également des ouvrages dont je suis l'auteur aux éditions Diaromana, et que vous connaissez aussi bien que moi.
Vous allez donc dédicacer la lecture en question, l'obéissance en question et la nouvelle droite en question.
Voilà, qui sont trois petits documents qui font entre 90 et 120 pages. L'objectif étant que, puisque ce sont des petits formats, voilà, en une heure et demie, deux heures, on peut faire le point. Alors, pas un point exhaustif, bien sûr, mais on peut avoir quelques lueurs sur ces trois sujets, me semble-t-il, d'actualité. L'obéissance dans la société civile, mais aussi l'obéissance dans l'Église. Je rappelle, c'est une idée forte de ce développement, que l'obéissance est rattachée à la vertu de justice. Les vertus cardinales, c'est la force, la prudence, la justice et la tempérance. L'obéissance ne peut pas aller contre la justice. Voilà, donc une petite brochure, une deuxième brochure sur la lecture en question avec un plan simple, hein. Pourquoi faut-il lire ? Première étape. Deuxième étape, quels sont les obstacles à la lecture ? Ensuite, comment lire ? Et enfin, je propose sur un certain nombre de sujets des pistes de lecture. Et puis, notre dernier né dans cette série...
Vous viendrez nous en parler, d'ailleurs, pendant une heure, puisque
voilà,
le sujet de la nouvelle droite est un sujet fort intéressant.
Voilà. Y revenir plus longuement.
Voilà. Alors, je voulais absolument vous avoir, parce que vous allez également donc, présenter les ouvrages des éditions Contretemps, et notamment un bel ouvrage consacré au cardinal Méry Delval.
Alors, effectivement, nous venons de publier donc une biographie du cardinal Méry Delval. Donc, je rappelle que le cardinal Méry Delval donc, a été cardinal secrétaire d'État de Saint-Pie-X pendant 11 années et il a joué un rôle auprès de quatre papes, puisqu'il a été au service de Léon XIII, de Pie X, de Benoît XV et de Pie XI. Voilà. Et donc, dans cet ouvrage que nous devons au professeur Roberto de Mattei, qui avait déjà donné aux éditions Contretemps une histoire du Concile Vatican II, eh bien, nous retraçons la vie de ce grand prince de l'Église. Je crois aujourd'hui, c'est vraiment un motif de... je vois trois intérêts à la lecture de ce livre. Le premier intérêt... c'est une figure vraiment attachante, un grand cardinal, par les responsabilités qu'il a eues, mais sans sens qu'il n'ait toujours conservé une grande simplicité. Voilà, aujourd'hui, nous avons un peu tendance à nous désespérer à la vue du personnel ecclésiastique. Eh bien, je crois que c'est bien qu'il y ait aussi un motif de satisfaction par ce grand cardinal. Et puis, le deuxième intérêt, me semble-t-il, c'est de rebalayer avec lui toute une partie de l'histoire de l'Église, puisque, et en particulier de l'Église de France, puisque voilà, il naît en 1865, il meurt en 1930, et il est très lié à différents événements de l'histoire de l'Église de France, en particulier le ralliement en 1892, puis également il participe avec Saint-Pie X à la lutte contre le modernisme, et puis c'est également lui qui doit gérer, d'une certaine manière, les lois de séparation de l'Église et de l'État en 1905. Et puis également, c'est l'occasion de revenir sur un événement dont nous fêtons, d'une certaine manière, l'anniversaire cette année, puisque c'est le centenaire de la condamnation de l'Action française en 1926.
Oui.
Et le cardinal Méridel-Val a été partie prenante, alors pas partie prenante directement, puisqu'à l'époque, il n'est plus secrétaire d'État. Il s'occupe du Saint-Office, il est secrétaire du Saint-Office, mais c'est l'occasion de revivre ces événements. Donc, je crois qu'il y a un intérêt dans l'absolu sur la personnalité du cardinal Méridel-Val en tant que tel, mais c'est également l'occasion de balayer quelques pages de l'histoire de l'Église.
Et précisons d'ailleurs que vous avez réalisé une très belle première de couverture.
Ben oui,
un splendide portrait du cardinal en majesté, si vous et je trouve qu'elle est particulièrement réussie.
Eh bien, je m'en réjouis.
Mais nous parlerons évidemment de la vie du cardinal également à la rentrée. Précisons que vous aurez également le monument, justement, de M. Des Matteilles, consacré au Concile Vatican II.
Bien sûr.
Que vous présenterez, ainsi que les actes des différents colloques que vous aviez organisés.
Et puis également, je signale pour nos auditeurs, un peu dans un autre domaine, puisque nous avons également une collection de manuels scolaires, et nous avons sorti juste avant les vacances, donc un cahier d'activité en deux tomes, le tome 1 et le tome 2, sur les sciences d'observation, donc pour le cours moyen. Donc en deux tomes, puisqu'en fait, les sciences de l'observation, ce qu'on a appelé les sciences naturelles, les sciences de la vie et de la terre, mais il ne suffit pas qu'il y ait des cours. Il y a des cours, nous avons fait des manuels pour ces cours, mais il y a également des petits cahiers de travaux pratiques que nous avons conçus en partenariat avec la Dominicaine enseignante du Saint-Nom de Jésus, et donc nous avons édité et sorti juste avant les vacances, c'est deux tomes destinés au cours moyen.
Eh bien, écoutez, donc rappelons que ces journées chouannes donc, ont lieu à Chiré-en-Montreuil.
5 et 6 septembre.
5 et 6 septembre, et que vous serez donc assez nombreux à y dédicacer.
Une centaine d'auteurs, oui.
Voilà. Et nous allons donc en parler abondamment. Merci beaucoup, Jean-Pierre Maugendre.
Merci beaucoup. Bonne journée à tous les auditeurs, à vous-même et bonnes vacances.
Alors, cher Jean-Christophe Guyot, vous allez nous justement évoquer un petit peu l'organisation de ces journées. Ces journées chouannes ont commencé, elles n'ont pas commencé en 1966.
Non, puisque c'est la 56e édition. Je tiens à dire également, puisqu'on a parlé d'anniversaire, que c'est le 50e anniversaire de la librairie Duquesne. Parce que la librairie Duquesne a été ouverte en 1976 dans les locaux de l'association, exactement, qui avait dû, le local avait dû ouvrir en 1970, hein, j'ai regardé quelques dates, et en même temps, 50 ans, avenue Duquesne, Duquesne Diffusion, un titre un peu, qui n'est pas le plus accrocheur qui soit, mais qui avec la patine des ans est devenu très familier à beaucoup de gens.
Oui.
Et d'ailleurs, moi-même, avant d'y travailler, j'ai fréquenté cette librairie comme, j'allais dire, comme tout catholique de droite qui se respecte la fréquentait. Et j'étais toujours très admiratif de voir autant de bons livres dans une même pièce. Et je me souviens m'être dit, quel bonheur ça doit être.
Il y avait près de 5000 livres à l'époque, je ne sais pas si c'est toujours le cas.
Oui, je pense, si vous voulez, c'est le même local, hein, donc... On a à peu près, je ne les compte pas tous les jours, mais je pense que ça doit tourner autour de 6-7 000 livres, en sachant qu'il y en a, je ne sais plus combien, 300 000 dans le Poitou qu'on fait venir toutes les semaines, hein, puisqu'on a cette possibilité de livrer les clients assez rapidement, à partir du moment où ils ont trouvé le titre sur le site. Comme on ne peut pas tous les avoir avenue du Quai, on les fait venir. Et c'est vrai que cette librairie, eh bien, c'est une rareté. C'est une rareté, il faut le dire. Oui. Et d'ailleurs, beaucoup de gens...
Et j'irais même que c'est une rescapée, parce que les librairies parisiennes, à la fois catholiques et françaises toujours, sont devenues très rares.
Voilà,
Elles ont fermé les unes après les autres.
Catholique
et librairie française, bon, c'était pas tout à fait catholique, mais enfin, c'était quand même une librairie qui défendait certaines valeurs.
Oui, oui, qui existe toujours, mais tenue par quelqu'un d'autre.
Hein, la librairie française
existe toujours. Vous avez eu Henri Coston, et puis vous avez eu Jean-Gilles Maillard-Akis. Maillard-Akis qui venait chez Duquesne un peu de temps avant de mourir, et à qui j'avais lu d'ailleurs le très beau portrait que Jean-Yves Le Gallou, vous le savez, puisque vous avez édité l'ouvrage « Mémoire identitaire
».
Donc Maillard-Akis n'était pas au courant. Je lui ai écouté, vous avez Jean-Yves Le Gallou qui trace de vous un portrait, vous pouvez mourir en quelque sorte avec un portrait pareil. Il m'a dit « Oui, c'est pas mal, oui, c'est pas mal », mais il était surtout dans l'action, il voulait écrire un livre sur la Chine. Je lui avais dit, écoutez, cher monsieur, je ne veux pas dire que vous arrivez à un âge où il faut se pencher sur le passé, mais il ne voulait pas écrire ses mémoires.
Non.
Pas.
Alors qu'il aurait eu beaucoup de choses à dire.
Oui, mais par contre, bon, il est vrai que je me suis penché sur le personnage, exceptionnel dans son genre, et c'est vrai qu'en matière d'idées, en matière de pensée, de militantisme, il faut quand même travailler le terrain, travailler le sujet, parce que c'est assez difficile à suivre parfois.
Ah oui, complètement.
Voilà.
Complètement.
Et donc vous avez la librairie française...
Entre le libéralisme...
Oui,
j'ai pas cherché...
Son
solidarisme...
Oui, j'avoue qu'il y a beaucoup de choses...
C'est assez étrange.
Remarquez, pour un étudiant en sciences politiques, étudier la carrière intellectuelle de Jean-Gilles Maillard-Akis, c'est excellent.
Ah oui.
Hein? Alors voilà, donc la librairie française existe toujours... Elle est tenue par Thibaut Chasset. Moi, j'y ai travaillé 5 ans, de 2017 à 2022. Quand elle était rue Bartholdi, à côté de Saint-Léon, l'église Saint-Léon, et vous avez la librairie de Soral, la librairie Logos, mais qui n'est pas spécifiquement catholique, au sens où il y a peu d'ouvrages catholiques, même s'il y a des auteurs catholiques qui sont vendus et qui parfois dédicacent. Mais ça fait trois librairies qui sont à peu près du même... De la même famille, puisque la nouvelle librairie a disparu en 2024.
Oui, effectivement.
Qui était la plus médiatisée, entre nous souhaits.
Oui. Enfin, c'est tout de même la librairie Duquesne qui demeure la plus approvisionnée. Et...
Écoutez, en tout cas, c'est la plus ancienne et c'est celle où je travaille. Donc,
exactement.
Si vous voulez, c'est la meilleure. Voilà. Si je puis me permettre, parce qu'effectivement, beaucoup de gens, on voit quand même beaucoup de gens qui sont sidérés de trouver certains titres. Parce qu'ils ne les ont vus nulle part ailleurs. Alors vous en avez qui vous disent, mais vous avez le droit de vendre ça, vous n'êtes pas inquiété. Tous les ouvrages que nous vendons sont autorisés.
Ah bah évidemment.
Aucun ne tombe sous le coup de la loi.
Non.
Mais il est vrai qu'on imagine mal un libraire qui s'interdirait de vendre certains ouvrages. Qu'est-ce que ça veut dire?
Oui.
Non mais quand on y pense,
bien évidemment.
Quand même la curiosité qui nous mène aussi.
Alors parlons un petit peu de Chiré. Donc, créé par des étudiants.
Des étudiants, dont Jean Rogui à l'époque.
Étudiants patriotes, on dira.
Des étudiants patriotes et qui ont créé Chiré après
Avec Jacques Meunier, Jean Rogui.
Oui, alors, je ne suis pas
Jean-Paul Rudeau.
On va demander à Michael Savigny. Je pense que de toute façon, dans les Journées Chouannes, vous aurez un rappel de toutes ces années.
Oui.
Mais c'est vrai que ça a été créé après la guerre d'Algérie. Et après le décrochage, vous savez, il y a le terme avait été employé, je crois que c'est Guillaume Cuchet qui, dans ses études sur le catholicisme, avait parlé d'un décrochage. Et en même temps, dans l'Archipel français, un ouvrage assez populaire, de comment il s'appelle, Jérôme Fourquet, il a parlé, lui, de la dislocation de la matrice catholique. Et c'est vrai qu'en fait, Chiré est créé un an après la fin du Concile Vatican II. Et c'est vrai qu'à partir de ce moment-là, alors évidemment, chaque historien va choisir des dates, mais vous avez quand même 60 années où la République, si j'ose dire, attaque quand même la matrice catholique avec beaucoup d'efficacité, puisque vous avez, j'ai mis quelques dates comme ça pour que les gens, voilà, vous avez quand même la légalisation de la pilule contraceptive sous De Gaulle, 67, qui n'est pas un petit événement, qui transforme complètement les rapports hommes-femmes, La fin de l'autorité paternelle au profit de l'autorité parentale, 1970, année où Chiré commence à éditer des ouvrages. Vous avez l'égalité des droits successoraux pour les enfants légitimes et adultérins, 72, année où est votée la loi Plévin. Vous voyez, en regardant ces dates, on comprend mieux. Oui. Vous avez la loi autorisant l'avortement et le divorce par consentement mutuel, 1975. Ils ont fêté le 50e anniversaire en 2025.
Oui.
Quand je suis arrivé, si j'ose dire, chez Chiré, enfin chez Duquesne,
vous pouvez même préciser qu'ils l'ont constitutionnalisé.
Alors, constitutionnalisation, voilà. Mais ça c'est récent, puisque c'est l'année dernière, je crois.
Oui, c'est 2025.
Voilà, c'est 2025. Et si vous voulez, quand je suis arrivé chez Duquesne, pour y devenir le vendeur, eh bien, il y avait un calicot géant, parce que nous sommes devant le ministère de la Santé, des Solidarités, du Travail. Et vous aviez « Avorter est un droit ». Un calicot géant, vous aviez Simone Veil et huit visages de jeunes filles autour, toutes plus belles les unes que les autres, évidemment toutes issues de la diversité, et qui tiraient une certaine fierté d'avoir, je dirais, abandonné leur enfant, si j'ose dire. Donc, si vous voulez, j'avoue que j'ai eu ce calicot pendant 6 mois sous les yeux. Alors, j'ai voulu réagir par un ouvrage de Chiré, c'est le livre du docteur Dor. Le docteur Dor, le crime contre Dieu.
Que vous avez dû mettre en vitrine. Avec
non,
Jubilation.
Je l'ai même pas mis en vitrine parce que je méfie beaucoup de la vitrine. La vitrine a un très fort impact sur la librairie, vous le savez.
Donc
il faut mettre des titres peut-être un peu moins punchy, comme on dit maintenant. Mais je l'ai mis à l'entrée, on ne pouvait pas ne pas le voir. Et puisque vous me permettez d'évoquer ce sujet, eh bien il y a eu une petite anecdote dès mon premier samedi à la librairie Duquesne où une dame... une vieille dame entre dans la librairie, nous discutons un peu, et puis elle me dit, vous avez vu cette affiche, c'est terrifiant. Ben, je lui dis, écoutez madame, j'ai rencontré une fois un personnage hors du commun, le docteur Dor, j'ai donc mis son livre en vitrine, et je lui dis, pour moi je pense que ça sera peut-être un saint un jour, compte tenu du combat qu'il a mené, et je lui ai parlé de la disproportion qui existait entre... La petitesse du personnage, sa santé qui était un peu déclinante et sa force de conviction.
Oui.
Et elle me dit, pas si petit que ça, c'était mon père. Donc c'était une des filles du docteur Dor.
Ah ben voilà, qui habite d'ailleurs à côté de la librairie.
Alors il y a deux filles, parce que j'ai rencontré l'autre qui est avocate.
Voilà, exactement.
Donc voilà, alors si vous voulez, cher Benoît, c'est vrai que le fait... donc on a parlé de l'avortement, il y a l'abolition de la déconstruction
de la maison France.
Vous avez également l'abolition de la peine de mort en 1980, on est en droit de penser que c'était pas une bonne chose.
Oui.
Hein, 70% des Français y étaient favorables, dans certains cas, bien précis.
Oui, bien sûr.
Vous avez eu l'adoption du Pax en 1999, vous avez eu le mariage dit pour tous en 2013, et puis effectivement, la petite dernière, qui exigerait maintenant que chaque émission... imposa une minute de silence. Parce que si vous voulez, cette loi sur l'aide à mourir, qui vient d'arriver là.
Oui.
Donc si vous voulez, la République, qu'on le veuille ou non, est en train d'attaquer directement nos valeurs. C'est-à-dire qu'ils s'attaquent, ils ont désacralisé la vie, ils ont désacralisé la mort.
Oui, effectivement.
Et il faut se mettre à la place d'un jeune aujourd'hui, quand il voit les perspectives qu'il peut y avoir, c'est la mort à tous les étages.
Il n'y a plus de repères.
Non, puis c'est la mort, surtout.
Oui,
c'est la mort.
Oui,
on glorifie la mort.
C'est la culture de mort.
C'est la culture de mort évoquée, je crois, par Jean-Paul II. Voilà, alors, pour en terminer avec cette partie plus intellectuelle, si j'ose dire, plus spirituelle, voilà un petit texte que j'aimerais lire, parce que, si vous voulez, je vois bien, quand on rencontre des gens dans la boutique et l'époque qu'on traverse, il ne faut pas décourager les gens.
Bah
il n'y a pas de raison de se décourager. Au sens où, de toute façon, ce qu'il faut, c'est sauver son âme, si j'ose dire, et on peut la sauver, quelles que soient les circonstances. Alors, j'ai trouvé un petit texte, qui n'est pas long du tout, je vous rassure, qui est issu d'un livre qui s'appelle « 40 ans chez les 40 », je ne pense pas que ça soit beaucoup lu en ce moment.
Henri Bordeaux.
Alors, voilà ce qu'il écrit. Là, c'est dans son chapitre sur l'élection de Charles Maurras. « Je me souviens que pendant la guerre, à Normé, qui est un petit pays aux environs de la Fère champenoise et qui avait été détruit par les obus allemands, je vis descendre de sa carriole un vieux paysan. Il gravit les 3 marches intactes qui conduisaient à son seuil. Mais ce seuil donnait sur le vide. De l'intérieur, rien ne restait, ou à peu près rien. Le toit s'était effondré sur l'étage et l'étage sur le rez-de-chaussée. Je supposais mon homme accablé par ces constatations et je m'approchais de lui pour lui adresser une parole de sympathie et de pitié. Il regardait, il mesurait sans doute son désastre. À ma voix, il se retourna et me dit avec le plus grand calme « Les murs sont bons ». Alors, je termine par la conclusion, parce qu'elle est également dans la philosophie de Chiré. Je croyais qu'il approfondissait sa misère. Il calculait le temps et le coût de la reconstruction. Ainsi, Charles Maurras, dans ses plus dures polémiques, pas plus que le paysan devant sa maison en ruine, n'a douté de la France. Non, tout n'est pas tranquille autour de nous, mais le cœur est intact et bat régulièrement. Cette France en laquelle il nous a montré, dans un portrait plus beau encore que celui de Louis XIV, l'union du charme et de la force venue de l'autorité paternelle des rois, des chefs de guerre et de ces chefs de paix qui sont les chefs de famille. La tendresse venue de la Vierge qui inspira le respect de la femme et de la chevalerie, venue aussi des saintes de notre sol, une Bernadette de Lourdes, une Thérèse de Lisieux et surtout cette Jeanne d'Arc pour qui le cardinal Villeneuve, archevêque de Québec, quittait le Canada et franchissait l'océan afin de bénir hier comme légat du pape sa maison natale de Don Rémy. Cette France, notre France, a été construite avec la chair et le sang, avec le cœur et l'esprit de nos pères pour durer. Avec les nôtres, elle durera. Voilà le texte que j'ai
trouvé. C'est magnifique.
C'est magnifique.
Ah, c'est magnifique.
Et je suis tombé dessus parce que je me disais quand même, tu vas pas encore dire...
Je suis même étonné que ce soit Henri Bordeaux, vous voyez, qui
ça. Mais Henri Bordeaux est souvent considéré comme un auteur mineur, parce que ses romans sont datés, mais je peux vous garantir que
La Robe de laine est encore un très beau roman, mais bon.
Certes, mais si vous voulez, vous voyez ce que je veux dire.
Mais c'est plein de bons sentiments.
On va pas redorer la comptabilité de la librairie,
mais
faut quand même reconnaître.
Non, oui, dans ce passage.
40 ans, je sais pas, je pense que c'est là. 40 ans chez les 40, ça ne se trouve pas partout.
Et puis je trouve que parler de murs. De murs porteurs.
Les murs sont bons.
C'est les murs porteurs dont parle d'ailleurs De Villiers constamment.
Non, mais c'est très fin.
On pourrait ajouter la dentelle du rempart. La dentelle du rempart étant évidemment tout le côté surnaturel.
Surnaturel.
Ce que représente l'Église.
Qui nous aide à tenir.
Voilà.
Voilà,
donc
il n'y a pas à se décourager, ils ne nous auront pas, si j'ose dire. Mais il est vrai que ça commence à devenir oppressant. Vous voyez, il nous faudrait des...
Bernanos disait, ils ne nous aurons pas vivants.
c'est toujours très fin quand on va puiser chez Bernanos. Donc voilà le texte qui pour moi est essentiel.
Un texte d'espérance.
Un texte d'espérance et en même temps, parce que c'est par la lecture qu'on arrive à quand même à rebondir. Oui. Donc voilà, donc cette matrice, cette désacralisation, il faut absolument lutter contre cette désespérance qui est voulue, qui est souhaitée. On voit bien. Oui. On voit bien que c'est souhaité. Et la République n'arrive pas à substituer à la religion catholique une religion digneuse. Non. Regardez, vous lisez Vincent Peillon, des gens comme ça, qui veulent trouver une mystique.
Oui.
Mais cette mystique, c'est la mort.
Oui,
c'est la mort, cette mystique.
Oui.
Et ça se voit.
C'est cette religion républicaine qui, d'ailleurs, qu'on n'arrive même pas à faire émerger, parce que il faisait référence à, vous savez, à celui qui voulait éteindre les étoiles de l'Église, René Viviani. René Viviani, et c'est incroyable de voir comment, effectivement, il voulait substituer une espèce de religion luciférienne.
On a vu les Jeux Olympiques, on a vu cette espèce de spectacle luciférien, qui a laissé beaucoup de Français, d'ailleurs, suscité une indifférence polie, mais certains ont ouvert les yeux, quand même. Ils ont ouvert les yeux, mais ça s'accentue par le fait, quand même, sans vouloir ouvrir des portes. Ouvrir des portes ouvertes, c'est ça. C'est pas... Ce que je dis n'a rien de... Mais on voit bien, quand même, que cette espèce d'uniformisation par le smartphone joue un rôle essentiel. Et la déchristianisation... Et la déruralisation, c'est pour ça que pour en revenir à Chiré, pour rebondir sur ces journées chouannes, le simple fait d'aller à Chiré, c'est déjà, comment dirais-je, il y a déjà une sorte de joie qui vous envahit parce que c'est la campagne.
Oui, c'est vrai que c'est un ressourcement.
Oui, mais pour certains...
Et puis, il y a les charmilles, il y a ces arbres.
Exactement.
Cette espèce d'allée d'arbres.
Voilà, vous avez ces deux maisons.
Ce corps de ferme.
Exactement. Mais
cet ancien corps de ferme.
Exactement. Oui. Mais c'est très important parce qu'on voit des gens qui n'ont jamais, qui ne connaissent pas la campagne. Alors moi, je suis Mayennais, évidemment.
Vous la connaissez.
Moi, je sors de ma ville, je fais 2000 mètres. Et
on dit Mayennais ou Maignot ?
Ah ben Maignot, là vous êtes monarchiste, c'est l'ancienne France. C'est la Sarthe et la Mayenne, les Maignots.
Ah,
nous on dit Mayennais, le Mayennais même, si on veut vraiment le dire, Mayennais. Et si vous voulez, c'est vraiment un pays, un petit pays, qui se transforme lui aussi, parce que bah, voilà, il y a autant de jeunes filles tatouées, avec, comment dirais-je, leur portable, etc., qu'il peut y en avoir un peu partout. Mais vous gardez quand même une sorte de bon sens
paysan.
Oui,
il y a quelque chose. Oui.
Il y a encore quelque chose.
Oui.
Il y a encore quelque chose qui fait que le Mayennais, très légitimiste, quel que soit l'événement, il va vous dire « Oh là, oh là !» Vous lui annoncez une grande nouvelle, « Oh là !» Vous lui en annoncez une mauvaise, « Oh là !» Vous voyez, c'est... On garde cette matrice...
Il y a une espèce de détachement...
Oui, il y a une espèce de détachement, mais oui. Il est lié à la terre. Oui. Il est lié à la campagne.
Oui, 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 c'est incontestable.
C'est incontestable. Et la déruralisation et la déchristianisation sont à mettre sur un même plan, parce qu'elles sont liées l'une à l'autre, vous voyez. C'est...
Alors, ces journées, est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu du programme, en tout cas?
Bah, écoutez, le programme, je vais vous en parler,
voilà.
Et je vais le récupérer, puisque le vôtre n'est pas loin. Alors, le programme, qui n'est pas encore définitif,
oui.
Mais qui est quand même, je dirais, quasi définitif. Donc, vous avez samedi et dimanche, deux journées, avec des conférences.
Donc, il faut s'inscrire.
Ah, il faut s'inscrire. Alors là, la partie technique, oui. Il faut absolument que les gens qui sont intéressés par ce que nous sommes en train de dire aillent sur le site de Chiré, donc
www. Ils peuvent se rendre soit en voiture, soit par le train.
Oui, mais il faut d'abord
récupérer à la gare de Poitiers.
Exactement.
Mais pour tout ça, il faut s'inscrire.
Il faut s'inscrire. Donc c'est pour ça que je leur recommande d'aller sur le site internet de la maison, parce que tous les détails sont donnés. Vous avez tout ce qui concerne les informations pratiques. La liste des logements autour de Chiré, dormir sur place, participation, les différents accès. Enfin, je veux dire, c'est parfaitement expliqué.
Oui.
Bon, il faut savoir que c'est deux journées qui sont un peu comparables à des BBR catholiques. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un peu la fête des bleus, blancs, rouges, sans la partie politique. Il n'y a pas de parti politique, à ma connaissance,
non.
Qui sont présents.
Non.
Mais c'est une journée d'amitié française,
oui.
et qui permet de...
Ce serait plutôt ça,
d'amitié française,
oui.
Oui, non, mais quand je disais BBR, parce que souvent il y a des nostalgiques qui vous disent que vous rencontrez des gens qui pensent comme vous.
Ah oui, oui.
Vous avez un peu le sentiment de...
Ah bah les BBR, on se souvient de tous les stands régionaux.
Voilà, mais
il
y a quelques stands d'associations,
il y en a quelques-uns,
oui.
Effectivement.
Vous avez beaucoup d'éditeurs, vous avez... comment dirais-je, vous avez des auteurs.
Vous avez du vin, du champagne, du...
Oui, il y a également ce qu'il faut pour passer de bons moments, mais c'est quand même pas la caractéristique principale,
non,
mais effectivement, on se sustente. Hein, et moi, j'y suis allé l'an dernier, il faisait un temps magnifique. C'était vraiment deux journées hors du monde, et en même temps, dans le monde.
Oui.
Vous voyez, donc là, vous avez ce que j'en sais
donc
pour l'instant
samedi, voilà.
Du programme. Aujourd'hui, on est le 22. Vous avez donc une conférence le samedi du colonel Jacques Hogard, qui est quand même une voix autorisée pour évoquer les guerres d'aujourd'hui, l'Ukraine, l'Iran et la recomposition du monde. Parce que c'est vrai que bon, il est toujours bon d'avoir quelqu'un qui s'y connaisse dans ce domaine.
Oui.
Parce que le problème d'aujourd'hui, c'est que vous avez tellement de commentateurs qui vont vous dire des choses intéressantes, mais vous voyez, un commentateur chasse l'autre, et il est bon d'avoir... quelqu'un qui vous parle en direct pour la réflexion.
Qui est une vue d'ensemble.
Vue d'ensemble. Donc, vous avez ensuite une table ronde concernant l'Église.
Et d'ailleurs, son père était un client de Duquesne.
Certain.
J'ai très bien connu le général Hogard, qui avait été déporté, résistant déporté, et qui était un homme d'une admirable résistance, si j'ose dire.
Écoutez, je pense qu'il serait fier de son fils.
Ah oui,
hein,
oui.
Et il sera à la hauteur. Alors ensuite, vous avez une table ronde... Jean-Pierre Maugendre a évoqué tout à l'heure la séparation la mise à l'index de l'action française en 1926, qui n'est pas un petit événement, peu déstructuré l'Église. Personnellement, moi, mon grand-père était né en 1905, l'année de la séparation de l'Église et de l'État, et quand j'ai eu l'âge de m'intéresser à la politique et que je discute avec lui, il me parlait très souvent de cette date. Car si vous voulez, mon arrière-grand-père travaillait pour le compte de familles aristocratiques de la Mayenne. Il était charron, menuisier, tonnelier, il s'occupait du bois. Il travaillait pour le colonel de Vézin, qui avait été un des fondateurs de l'Action française. Et mon grand-père me disait toujours qu'en 1926, ça avait été une véritable catastrophe.
Ah bah oui.
Des catholiques étaient privés de sacrements.
Ah ben, bien sûr.
Évidemment, aujourd'hui, vous dites ça à quelqu'un qui écoute une émission, vous le débranchez pour lui dire que c'était une catastrophe, les gens n'avaient plus de sacrements, ça ne le touche pas beaucoup.
Oui, il comprend pas de quoi il s'agit.
Ça a été une cassure. Alors vous avez, comme invité, vous avez Philippe Prévost, toujours bon pied bon oeil, qui vient d'écrire un nouvel ouvrage sur le thomisme de Pie XI. Vous avez également Hilaire de Crémier, qui en connaît un rayon sur le sujet. Merci. Et vous avez également Jacqueline Bedel, qui animera cette table ronde, hein, et qui est, la femme de la veuve de Gérard Bedel, qui avait écrit un ouvrage sur l'Action française. Vous avez ensuite, dans la foulée, la Cristiada, quand le Mexique offrait son sang pour le Christ-Roi, vous savez, c'est la fameuse histoire des Christeros, même année 1926, Pie XI. Vous avez ensuite le déjeuner, vous avez en début d'après-midi, une conférence concernant Marcel de Corte, un thomiste pour comprendre notre effondrement. Alors là, c'est du philosophe de très haut rang, hein, mais facile.
Mais abordable.
Très abordable. Oui, oui. L'intelligence en péril de mort, un véritable chef-d'œuvre.
Oui,
c'est du niveau...
Incarnation de l'homme.
Voilà.
Il a vraiment écrit des chefs-d'œuvre.
Il a écrit des chefs-d'œuvre, un peu comme Gustave Thibon, dans son genre. C'est un peu la même école de philosophe, même si lui est belge. Vous avez ensuite... Le livre noir de l'argent public, comment l'État dilapide ce que vous avez gagné, de Jean-Baptiste Léon. Ça, c'est un ouvrage qui est difficile à lire, parce qu'on s'aperçoit quand même qu'on travaille, on travaille pour la peau. Et ensuite, vous avez une table ronde, du présent faisons table rase, les coriaces face à l'époque. Alors là, je crois que vous avez lu cet ouvrage.
Oui, c'est-à-dire que donc les éditions de Chiré ont publié en juin un ouvrage intitulé « Du présent faisons table rase ». Allons enfants de la... Matrix.
De la Matrix.
Et c'est co-signé par André Bercoff, Daniel Cosculuella, Alain Peretti et Philippe Bornet. Et c'est un petit ouvrage, un petit manifeste, on peut dire.
Oui.
À la fois de résistance
exactement.
Et d'espérance.
D'espérance. Ils décrivent la situation présente. Alors j'avais marqué la question qu'il pose est simple. Que faire maintenant avec ce qu'il nous reste? Mais c'est pas un livre défaitiste.
Non.
Mais en même temps, je pense que ce sont, quatre amis qui ont eu l'idée d'écrire cet ouvrage. Ils sont très différents les uns des autres, mais en même temps, ils tirent les mêmes conclusions. Et en fait, ça commence à se voir, quoi. Les narratifs actuels, le wokisme, etc., en gros, il y en a marre. C'est pas vivable. Ça reprend un peu la conclusion de tout à l'heure.
Alors, rappelons que Radio Courtoisie ne vit que par ses auditeurs. Et qu'il convient donc d'aider Radio Courtoisie par des dons.
Radio Courtoisie, libre, sans publicité, sans subvention. 1,5 million d'auditeurs par semaine, des milliers d'écoutes en ligne. De 13 ans à 99 ans, vous nous écoutez. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter en ligne. Désormais, les podcasts de Radio Courtoisie, les émissions de Radio Courtoisie viennent à vous gratuitement. Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Amazon Music et sur notre site internet rc.fr et podcast.rc.fr.
Chers auditeurs et auditrices, nous retrouvons donc Jean-Christophe
Gruot.
Voilà. Donc le libraire en chef de Thème Diffusion.
Libraire en chef, libraire tout court. Mais en chef, oui.
Et nous avons une remarque d'auditeur. Alors que la représentation de l'État et les trésoreries disparaissent peu à peu en France, le gouvernement choisit de donner davantage de pouvoir aux pharmaciens en les autorisant à préparer et à délivrer la substance létale destinée à provoquer la mort. Trouvez-vous cela normal? Je me doute un peu de votre réponse.
Écoutez, je ne trouve rien de normal. Je trouve que, comme avait dit, je crois, le cardinal Sarah, quand quelqu'un va mal, il a besoin qu'on lui tende la main. Il a dit quelque chose de comparable. Oui. Je ne suis pas pour... Et puis, je ne sais plus, là, un député que j'avais pourtant... peu apprécié quand il vantait les injections, le dénommé Juvin, je crois.
Ah oui,
ça vous dit quelque chose ?
Oui,
oui,
oui, oui.
Et je l'avais trouvé...
C'est un médecin, un chef de service.
Voilà, mais je l'avais trouvé particulièrement désagréable pendant la crise covidienne.
Oui.
Où là, il était très agressif. Oui. Et il s'est complètement retourné.
Il a été remarquable.
Il a été remarquable.
Oui.
Bon, vous me direz, il a tenu le discours qu'un médecin doit tenir.
Oui.
C'est tout. On dit remarquable parce qu'il est un des seuls à avoir pris la parole. Mais non, je pense que...
La mort n'est pas un soin. Voilà.
La mort n'est pas un soin, et vous pouvez avoir des gens qui arrivent. Oui. ils sont tellement souffrants qu'ils vont vous dire « ça va mal, j'en veux plus, j'en peux plus ». Évidemment, si vous avez une infirmière qui est payée à la picouse, il est évident que ça suffit, vous voyez, vous avez deux jours.
Ah bah bien sûr.
Hein,
bien
et vous
sûr.
Pourriez... Bah non, mais si vous voulez, il faut, j'ose espérer qu'un grand nombre de soignants, qu'un grand nombre de médecins vont prendre conscience que ça ne peut pas durer.
Mais, ah mais de toute façon,
ça ne peut pas durer.
L'immense majorité des soignants ne sont pas du tout
pour, oui, mais pour cette loi. L'immense majorité des homosexuels, si j'ai bien compris, n'étaient pas pour le mariage pour tous.
Oui, oui, oui.
Vous voyez ? Et l'immense majorité des Français n'étaient pas pour l'abolition de la peine de mort. Donc je me méfie beaucoup de cet endoctrinement, de ce conditionnement smartphonien.
Mais oui, et puis il y a un effet de cliquet dont parle Yves-Marie Adeline. C'est-à-dire qu'à chaque fois, le progressisme, à chaque fois, évolue. Toujours plus vers la gauche, vers la révolution, hein, l'esprit
révolutionnaire. Marie-Adeline qui sera présent une fois de plus aux Journées Chouannes, et que j'ai rencontré une fois quand il était directeur de cabinet du président du Conseil Général de la Mayenne.
Oui, oui, effectivement.
Il avait écrit un livre qui s'appelle La droite...
Il a écrit La droite où l'on n'arrive jamais.
Excellent.
Oui. Et surtout La droite piégée.
Oui, La droite piégée, plus théorique. Par
Chirir Montreuil.
D'ailleurs. Voilà, mais j'avais beaucoup aimé La droite où l'on n'arrive jamais, parce que c'était des exemples précis d'hommes politiques qui arrivaient au pouvoir en disant « je vais faire ça », et qui, au bout de 15 jours, 3 semaines, ne le faisaient pas.
Et il a fait des ouvrages absolument remarquables, notamment une histoire des idées politiques.
Dans son genre, c'est une...
C'est brillantissime.
Faut pas que son égo en souffre, mais c'est quand même une grande puissance intellectuelle.
Hein. Oui, oui, oui.
Alors, je reprends mon programme.
Alors, reprenez.
Donc, le programme, alors le dimanche, évidemment... Messe basse des organisateurs, messe chantée par l'abbé Cottard. Vous avez ensuite, en ouverture, si j'ose dire, Chiré, 60 ans de combat pour les idées, le fondateur et son successeur. Là, vous avez donc Jean Ogui, le fondateur, et François-Xavier Dautefeuille, qui est son gendre, et qui a repris la boutique, et qui la maintient. Hein, il l'a reprise en 2011. Et là, ils évoqueront avec Michael Savigny, le rédacteur en chef de Lecture Française, les grandes étapes, les grands événements qui ont marqué l'histoire de Chiré. Ensuite, vous aurez une conférence sur Salazar, qui est un chef d'État particulièrement intéressant et qui est rarement mis en avant.
Oui.
Vous avez étudiants, ils savent même pas qu'il a existé.
Non, c'est vrai.
30 années à la tête du Portugal, un personnage qui avait...
40 ans, je crois.
Trentaine d'années, non. Je crois, une fois qu'il était Premier ministre, parce qu'il avait dû commencer un peu avant. Enfin bon,
ça s'arrête
en 68, je crois qu'il a fait un AVC en 70. Mmh. Et si vous voulez, le personnage, quand vous lisez sa vie, vous êtes sidéré par la simplicité de l'homme, qui avait, je crois, qui voulait être payé au SMIC, l'équivalent du SMIC. Sa sœur célibataire devait s'occuper du ménage, du palais. Enfin, ce sont des choses tout à fait étonnantes.
Oui,
et quand il avait été élu député, si mes souvenirs sont bons, jeune député, il avait trouvé ça tellement pitoyable comme spectacle qu'il avait démissionné.
Oui.
C'est comme ça qu'il s'est fait repérer.
Oui, oui, oui.
Et après, ils sont allés le chercher pour être ministre de l'économie, je crois, mais il a dit d'accord.
Ce sont les militaires qui ont été cherchés.
Exactement. Il a dit d'accord, mais à une condition, c'est que je décide de ce qui est bon pour le pays. Donc, si vous voulez, le personnage est étonnant. Chiré vient d'éditer Principe d'action, un ouvrage sur Salazar. Vous avez ensuite...
Enfin, c'est un ouvrage de Salazar.
Là, c'est un ouvrage de Salazar. Oui. Vous avez des ouvrages sur Salazar, notamment... De Jacques Ploncard-Lassac, qui a été un de ses collaborateurs.
C'est ça.
On a chez Duquesne au moins 4 ou 5 ouvrages sur Salazar.
Il y a le livre de Jean-Paul Bess aussi.
Jean-Paul Bess, vous avez un livre de Mircea Eliade également.
Oui, c'est vrai qu'il y a eu...
Voilà. Et vous avez un cahier d'histoire du nationalisme sur Salazar. Alors, pour l'instant, la dernière conférence, c'est sur l'intelligence artificielle d'une certaine Emmanuelle Darle, une informaticienne, enseignante, chercheuse et essayiste, spécialiste des questions liées au numérique et à l'intelligence artificielle.
Là, on est dans l'actualité la plus
brûlante.
Oui, alors,
comme on veut rester joyeux, on ne va pas évoquer les conséquences possibles de cette intelligence dite artificielle, parce que je ne vois pas comment l'intelligence peut être artificielle. Ce que je sais, c'est que je croise à la librairie des gens très inquiets pour leur avenir. Vous voyez ? Parce que maintenant,
l'intelligence artificielle va prendre la place des êtres humains.
L'intelligence artificielle peut, en quelques secondes, faire ce qu'il mettait 15 jours. Je connais un rédacteur, que je ne citerai pas évidemment. Eh bien, quand on lui demandait de faire un dossier, il fallait 15 jours. Maintenant, il faut 24 ou 25 secondes. Parce qu'à partir du moment où il puise aux mêmes sources, c'est-à-dire les algorithmes vont chercher l'information dans la bécane, eh bien, comment voulez-vous vous en sortir ? Donc voilà, alors ce programme n'est pas définitif, les gens peuvent assister ou non aux conférences en fonction de l'intérêt suscité chez eux par tel ou tel thème, mais je recommande vraiment à tous ceux qui ont besoin d'un coup de jus, vous voyez, qui ont besoin d'une espèce de poussée d'optimisme, non mais vraiment, parce que d'abord c'est les 60 ans, 60 ans ça se fête, hein. En même temps, le livre, on n'a pas besoin de s'étendre, mais on apprend tous les jours de mauvaises nouvelles, oui. Et sincèrement, c'est un geste militant, c'est un geste de français, c'est un geste de catholique, donc je pense avoir, en avoir dit suffisamment maintenant, ce serait du superflu. Et il faut dire également, si les gens veulent des renseignements, ils peuvent toujours venir, s'ils habitent Paris, à la librairie du Quai, où je me ferai un plaisir de les conseiller.
Voilà. Je ne peux pas m'empêcher de citer d'ailleurs ce mot d'André Bercoff. André Bercoff viendra signer le livre.
André Bercoff est prévu.
Ah, il est prévu.
Il doit venir. Si Dieu veut.
Il importe plus que jamais d'être militant de la vie contre la survie, de la liberté stellaire contre la servitude volontaire, de la marche face au vent, surtout lorsqu'il sent vraiment mauvais.
Que voulez-vous dire d'autre ? C'est une bonne plume, Bercoff.
Ça va dans le sens de l'espérance que vous voulez cultiver.
Eh ben, écoutez, cette espérance, c'est pas qu'on veut la cultiver, c'est qu'on la cultive.
La petite fille espérance.
On la cultive. Oui. Maintenant, il dépend aussi des gens qui veulent la voir fleurir, de nous aider. Parce que effectivement, voyez, je reviens sur cette histoire de smartphone. J'en ai un maintenant depuis un an, ma femme m'en a offert un parce qu'il faut que je prenne mes billets SNCF. C'est pour ça que je l'ai.
Ah mais on ne peut plus ne pas en avoir.
Non mais je veux dire, c'est invraisemblable.
On ne peut plus ne pas en avoir.
Vous avez cette machine pour pouvoir acheter vos billets SNCF, oui. Puisque j'habite toujours la province, je reviens tous les week-ends. Mais je vois moi-même, je ne suis pas plus fort qu'un autre, je vois l'effort que je fais parfois pour me détacher de très bonnes émissions, et je rencontre des grands lecteurs, des gens qui lisaient 2 heures, 2 heures et demie, 3 heures par jour. Ils ont diminué de moitié leur temps de lecture. Alors vous allez me dire, oui, mais ils lisent des auteurs. Oui, mais ils n'achètent pas l'ouvrage. Et le temps passé devant le smartphone n'est pas passé devant l'ouvrage.
Non.
Et ne nous laisse pas succomber à la tentation. Oui. Une tentation supplémentaire.
C'est vrai que c'est terrible. Hein,
Et c'est très addictif.
Oui.
Très addictif. Oui, oui. Alors évidemment, si on s'en sert pour acheter des livres chez Duquesne, continuez, mes amis.
Oui, je crains qu'on s'en serve aussi pour acheter les grands groupes internationaux.
On voit beaucoup de jeunes aussi qui s'en servent, on ne va pas aborder le sujet, mais on voit bien la dérive qu'il peut y avoir. Oui. Et quand je vois tous les matins en allant au travail...
Enfin, vous avez vu qu'ils veulent interdire l'accès aux réseaux sociaux.
Oui, mais alors ça...
Ce qui est d'ailleurs très douteux. Parce que cette préservation de la jeunesse, en réalité, c'est une préservation éventuellement de l'information alternative.
Je pense qu'ils veulent interdire ça parce qu'ils se rendent compte que par l'intermédiaire de l'Internet, il ne faut pas oublier quand même les bons côtés, toutes les informations vraies, si j'ose dire, apparaissent. Qui ne sont pas celles d'Apolline de Malherbe ou de je ne sais qui. Donc c'est vrai que malgré tout, ça les agace un peu.
Oui. Ah oui,
ça les agace, même si ça stabilise un peu les gens, parce qu'une fois que vous avez passé 3 heures sur votre portable à vous agiter, à envoyer des textos, etc., enfin pas des textos, des tweetos, enfin des tweets, ou je ne sais pas, des commentaires, vous êtes calmé, mais vous n'avez pas vraiment fait avancer la cause.
Alors je rappelle à nos auditeurs que Jean-Christophe Gruau nous entretient de la librairie du Quesne, de la DPF, la diffusion de la pensée française, des éditions de Chiré, des journées Chouane qui vont donc avoir lieu le
5 et 6 septembre,
voilà.
Donc à 20 km de Poitiers, à Chiré en Montreuil, et toutes les informations sont données, je le répète, sur le site de Chiré où vous avez vraiment tout ce qu'il faut savoir, parce que là il est temps d'y penser, c'est vite arrivé. On arrive à la fin du mois de juillet. Donc c'est vrai que sauter sur l'occasion pour retrouver des gens qui pensent comme vous, j'insiste vraiment lourdement, parce que il en va de notre survie. Il faut pas avoir peur de le dire, que s'il n'y a pas un effort de fait de la part de ceux qui nous apprécient, eh bien une boutique comme la nôtre pourrait s'arrêter.
Est-ce que vous pouvez nous dire quels sont les derniers titres parus, parce que vous avez évoqué le livre de Salazar.
Oui, c'en est un.
Qui s'intitule
Les derniers titres de Salazar qui s'appellent Principe d'action.
Principe d'action, et vous aviez publié Comment on relève un État également.
Oui.
Un peu auparavant.
Oui, alors un peu auparavant. Là, par contre, c'est un ouvrage, donc. C'est un peu une sorte de condensé, c'était un fascicule.
C'est une reprise,
voilà,
en fait,
c'est texte, ça.
De discours, etc.
Voilà, vous avez également Les Corps intermédiaires qui a été réédité.
De Michel Creuset.
Exactement.
Très intéressant sur le principe de subsidiarité.
Exactement, sur le principe
à l'économie, mais également.
Voilà,
la gouvernance en général.
Voilà, les communes, les entreprises, les familles, les associations, en fait.
Une vision organique de la société.
Voilà, vision organique qui a été évidemment mise à mal par la loi Isaac-Le-Chapelier de 1791, où le citoyen se retrouve seul face à l'État. Oui. Vous voyez, et là encore, un Mayennais.
L'individualisme.
Vous voyez, un Mayennais, quand il y avait les associations, l'association de sport notamment, vous aviez toutes les classes sociales qui pouvaient se rejoindre. Faisiez partie de tel patronage ou de telle association. Vous fréquentiez le fils un tel, voyez, que vous n'auriez pas fréquenté autrement.
Non.
Et ça solidifiait le village, parce que, bon, on était loin de certains clivages, même s'il y avait des associations, des patrons qui, entre eux ne se faisaient pas de cadeaux, vous voyez.
Non, non.
Hein, vous aviez... Voilà. Et en même temps, ce livre sur les corps intermédiaires, eh bien, c'est ce que Salazar a mis en avant.
Oui, c'est la vision holiste.
Exactement.
Vision holiste de la société organisée, vue comme un corps social.
Et c'est aussi ce que le maréchal Pétain avait essayé de remettre avec les corporations. Non, non, mais je dis ça, je ne veux pas être polémique,
non,
mais
non,
c'est
non.
Une des raisons pour lesquelles beaucoup de francs-maçons, notamment, ou de républicains avancés, si j'ose dire, de progrès, le détestent. Parce que les corps intermédiaires sont détestés, vous comprenez, l'individu vous échappe.
Mais je me souviens qu'à Duquesne, effectivement, on vendait un livre, La Révolution Corporative Spontanée, de Jean Paillard.
Exactement.
Qui était un livre très intéressant parce qu'il montrait que, en fait, du coup, Pétain d'ailleurs avait échoué à vouloir rétablir une sorte de corporatisme en France.
Oui,
parce qu'il avait pris des gens comme René Belin, l'ancien secrétaire. Général de la CGT, qu'il avait pris dans son gouvernement, ce qui est quand même assez cocasse.
Oui,
cohabitait à la fois des syndicalistes et des corporatistes, ce qui était assez étonnant.
Oui, mais c'est étonnant, Vichy.
Oui.
C'est très étonnant quand vous aviez des gens complètement différents, mais je pense que certains ont voulu véritablement le redressement du pays. Le problème, c'est qu'ils l'ont fait dans une situation
qui n'est... On ne le fait pas quand on est occupé. Voilà,
non, mais ils ont sauté sur l'occasion, et c'est vrai que, bon, Pétain, en fermant les loges, en voulant rétablir les corporations et en attaquant le décret Crémieux, vous savez, en Afrique du Nord, qui permettait à certains juifs d'être français et pas à certains musulmans, il est évident qu'il a signé une haine inexpiable. Hein? Non, mais je veux dire, il faut aller au-delà de la caricature, il faut regarder profondément le pourquoi de cette détestation qui n'existe.
On est d'accord, mais cela dit, il ne faut pas en faire non plus un grand catholique. Parce que je trouve que certains se font un peu des illusions, et notamment... sur son comportement d'entre-deux-guerres, lors de la guerre du Rif, par exemple.
Non, mais je pense qu'il y a toujours...
Il a été vis-à-vis d'Yotay, il a été absolument lamentable.
Non, mais il y a toujours des excès, et d'ailleurs, à ce sujet, c'était un auteur qui avait écrit un livre en 2015, je crois, et surtout pas un mot à la maréchale. C'était sur la vie, du maréchal Pétain. Et effectivement, mais le bonhomme était quand même attaché à la terre... il était fils d'agriculteur. Si vous voyez, beaucoup de gens aujourd'hui ont du mal à comprendre cette France-là.
Oui, voilà. Bien sûr.
Et elle ne reviendra pas. Elle ne reviendra pas. Donc c'est vrai que si on veut en avoir un avant-goût, j'en reviens aux journées Chouanne, si on veut voir une espèce de profondeur de la terre...
Alors, dire qu'elle ne reviendra pas, moi je dirais qu'elle n'a pas complètement disparu.
Non, bien sûr.
Et que les Français sont quand même ont encore cet esprit... paysans, puisqu'ils vont massivement chaque année au salon de l'agriculture, par exemple.
Alors,
c'est énorme, le salon de l'agriculture.
Oui, bien sûr. Donc, quand je dis « il ne reviendra pas ».
Les Français restent quand même attachés à la terre et à la campagne, Mais bon, évidemment qu'on ne revivra pas exactement comme on vivait en 1950.
Il y a bien quand même ce qu'ils font aux paysans. 1930. Vous avez vu ce qu'ils font aux paysans.
De toute façon, ils sont en train de les faire disparaître.
Bah, non seulement ils les font disparaître, mais ils envoient des chars.
Oui.
Donc c'est quand même honteux. Mais ce que je veux dire, c'est que cette France-là était rurale, catholique et littéraire.
Oui.
Elle ne l'est plus pour l'instant. Mais si des centaines de milliers de personnes viennent à Chirey, pas trop quand même, c'est un millier de personnes, je ne sais pas, mais ça peut toujours renaître. Peut-être qu'une génération dira, voilà, mais le problème, c'est que c'est l'informatique. C'est que vous êtes obligé de votre carte vitale. Vous voyez, il y aura un choc. Il y aura un choc.
Oui. Alors, je vois que vous avez pris un ouvrage de Jean Renoir.
Oui, alors ça, vous voyez, Jean Renoir sur son père.
Pour quelle raison?
Pour quelle raison? Parce que c'est une sorte de livre de chevet. C'est un livre, vous voyez.
C'est un livre qui.
Cette biographie fait revivre avec amour un homme, une œuvre, un monde. C'est pourquoi elle a connu un succès mondial. Voilà une petite anecdote.
C'est un livre qui est paru.
C'est paru, c'est chez Folio.
C'est Folio.
Il a dû écrire ça. Donc Pierre-Auguste Renoir, c'est le fameux peintre, 1845-1919. Oui. Ce livre est paru en 62. C'est un livre que je recommande. Il est mondialement connu, c'est pas l'impression. Alors voilà
Renoir est connu, mais...
Très connu, oui. Mais ça n'est pas un livre technique.
Mais il me semble d'ailleurs qu'il était plutôt de gauche, Renoir, non?
Je sais pas, c'était un artisan qui attachait une grande importance aux mains, au visage, au corps, en même temps aux choses simples. Alors lui préférait un curé en soutane par rapport à un franc-maçon qui n'a pas de soutane, parce qu'au moins il disait, je sais à quoi m'attendre si je vais discuter. Alors voilà, petite anecdote.
Voilà.
L'été tirant à sa fin, ma mère voulut rassembler des toiles que Renoir avait peintes aux environs et laissées chez sa sœur, en attendant le retour à Paris. Impossible de retrouver ces tableaux. Elle eut l'idée de monter au grenier et vit que plusieurs d'entre eux avaient été employés à boucher les trous du toit. Les toiles de Renoir. Soupçonneuse, ma mère continua son investigation et dans le fond du jardin trouva d'autres toiles avec lesquelles Leray, donc le beau-frère, avait fait des cabanes à lapins. Elle ne lui envoya pas dire sa façon de penser. Leray écouta ses reproches avec la plus grande stupéfaction. « Mais qu'est-ce que ça peut faire à Renoir? Il peint cela en rigolant. Ça n'est pas de la peinture sérieuse. En quelques jours, il en aura refait d'autres. » Fermez les guillemets. Et il ajouta que la toile et l'huile de lin, servant à ses bêtises, étant de première qualité, ces lapins ne risquaient pas d'être mouillés par la pluie. Non mais je veux dire, des œuvres de Renoir qui ont... Donc c'est un vide clapier.
Avoir un tel détachement.
Si oui, mais c'est le détachement des gens de la terre, l'essentiel.
Et puis de ceux qui ont un talent immense.
Oui, alors bon, je préfère comme l'étoile de Renoir au lapin. Mais si vous voulez, ce bon sens paysan, j'ai pris cet exemple parmi d'autres, mais si les gens sont un peu déprimés, c'est là la caméra, si les gens sont un peu tristes... Pierre-Auguste Renoir, mon père, je peux vous garantir... que vous allez passer un très bon moment et vous allez sentir la joie.
Et on sent que c'est très bien écrit d'ailleurs.
Ah ben c'est très bien écrit. Et on sent la joie, si vous voulez, on est ému.
Parce que Jean Renoir, c'est bien celui qui...
C'est le cinéaste.
C'est le cinéaste.
Ouais. C'est le cinéaste, c'est le déjeuner sur l'herbe, c'est la grande illusion.
Oui, la grande illusion.
Et Pierre Frenet.
Oui, c'est magnifique.
C'est vraiment magnifique et très sincèrement, je l'ai pris. Je n'ai pas le temps de parler d'autre chose, mais sincèrement, si vous voulez, un ouvrage qui vous...
Et quel est le troisième ouvrage que
Alors le troisième, c'était le journal, le journal de l'abbé Munier. Alors une citation de l'abbé Munier. L'abbé Munier, il avait parlé d'Anna de Noailles. Il était prêtre. Alors c'est un prêtre qui fréquentait les milieux littéraires. Et qui a
et
dans
dont
son...
Guylain Diesbach a écrit la biographie.
Il a écrit la biographie, il a écrit d'ailleurs la préface. Oui. Et l'abbé Munier, il dînait en ville... avec Paul Valéry, avec Mallarmé, avec Clémenceau, Barrès, Anatole France, Drieux-La Rochelle, etc. Et à un moment, il parle d'Anna de Noailles, il la confesse, c'était avant qu'elle meure, et il écrit « Elle m'a dit des choses si belles, j'ai risqué l'absolution. » Après, plus loin, alors il prêche, mais il n'aime pas trop ça, et voilà, il avait de l'esprit. Il n'aime pas s'exhiber en chair. Alors voilà ce qu'il écrit. « Notre Seigneur a donné la parole aux hommes pour qu'ils s'en servent, mais il n'a pas dit qu'il fallait se mettre dans un coquetier. » Belle image. Et puis je vous dis la citation que je voulais vous évoquer pour conclure peut-être.
Pour conclure.
Pour bien montrer qu'on n'a rien inventé.
Oui, oui.
Donc le 29 août 1890, voilà ce qu'il écrit. Avant-hier, l'abbé Monsieur de Saint-Honoré-des-Laux, hier, Monsieur B. de Saint-Louis-d'Antin me disait à peu près ceci. 1890, nous sommes bien malades. Plus rien ne va dans l'Église de France. La médiocrité nous gouverne. Combien de temps cela durera-t-il ? Le premier de ces deux prêtres allait plus loin et ajoutait « Les jeunes prêtres n'ont plus la foi. L'édifice dogmatique est ruineux. Et oui, le malaise est général et le pauvre cardinal de Paris s'en va répétant « Portez la tonsure, c'est lugubre. On n'a jamais vu un archevêque remplir aussi bien les fonctions d'ordonnateur des pompes funèbres. » Donc quand on lit ça, 1890, oui. On se dit que...
Oui, on se console un peu.
Tout a toujours très mal marché, a dit Bainville. Et donc, sincèrement, il faut tirer du réconfort de ce genre de constat, parce que le pessimisme est d'humeur, l'optimisme est de volonté, et voilà, en quelque sorte, le mot de la fin en ce qui me concerne.
Eh bien, écoutez, rappelons donc que vous êtes venu pour, à la fois comme représentant de la librairie du Caine et directeur de la librairie du Caine, et en même temps pour nous inviter à ces journées chouannes qui vont donc avoir lieu...
5 et 6 septembre.
Ce mois de septembre.
Sur le site de Chure, et attention, ça ne se passe pas chez Duquel.
Sur le site de Chure.
Dans le Poitou.
Voilà. Et rappelons simplement les trois livres de Jean-Pierre Beaujean, donc La lecture en question, La nouvelle droite en question, L'obéissance en question, qu'on peut trouver dans toutes les bonnes
livres que nous vendons. Et...
dans toutes les librairies. Et Du passé, faisons table rase, des coriaces, donc à savoir
contre André Berkoff.
Contre les voraces.
Les voraces qui sont les mondialistes voilà. Et les coriaces qui sont les quatre copains. Là.
Voilà. Donc,
ils ont écrit un livre.
Kosciuszko,
original.
Peretti et Bornet, Philippe Bornet, que nous avons eu la joie également de publier. Merci beaucoup.
C'est moi qui vous remercie.
Ruot. Et je dis à très bientôt à tous nos auditeurs.
Vous venez d'entendre Au fil des pages, dirigé par Benoît Mancheron, diffusé en direct sur Radio Courtoisie mercredi 22 juillet 2026 de 10h à 11h et réalisé par Arnaud. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libre, rendez-vous sur soutenir.rc.fr et accédez à l'ensemble de nos archives à partir de 5€ par an. Si vous le désirez, nous pourrons vous faire parvenir un enregistrement de cette émission, commander le CD-ROM pour le prix franc de port de 9€ ou 6€ seulement si vous êtes adhérent de notre association. Je vous rappelle notre adresse, Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris.